Je suis au bord de la rivière et pour la session 2 de l'onde dilettante, une journée un petit peu aventureuse, l'idée c'est d'aller chercher l'eau dans la rivière, donc dans l'Aveyron. Je suis installé dans l'Aveyron, j'ai bien sûr mis mes longues bottes de pêcheur pour me rendre au sein de l'Aveyron et au milieu des remous. Bien sûr, en espérant ne pas tomber dans l'Aveyron, ce qui serait quand même vraiment dommage. Voilà. Donc là j'arrive dans une zone où on voit beaucoup de galets au fond de l'eau. Et je vais pouvoir maintenant que je suis quasiment au milieu. On l'entend d'ailleurs. Ou pas. Je vais pouvoir remplir une bouteille d'eau pour illustrer notre conversation, nos dialogues sur l'eau animale. Alors donc là il y avait de l'eau de Vittel utilisée hier, et aujourd'hui on va mettre plutôt et voilà, donc l'eau de l'Aveyron est en bouteille, mise en bouteille express, à quelques encablures de la cuisine, et je vais vous ramener donc cette eau. On va pouvoir la déguster bien sûr tous ensemble.
Deuxième dégustation aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est l'eau de l'Aveyron que nous allons boire. Alors, bien entendu, j'ai quand même procédé à un certain nombre de modifications pour que celle-ci soit vraiment complètement buvable. Et on a une première eau qui s'appelle donc l'eau de l'Aveyron. Alors là, je suis assez fier quand même de vous dire que celle-ci n'a reçu aucun additif, ni modification, ni filtration. C'est-à-dire que c'est effectivement l'eau de l'Aveyron dans toute sa sauvagerie, dans toute son animalité, j'avais envie de dire. J'ai fait une association animale et sauvage. Donc c'est peut-être l'eau la plus sauvage qu'on puisse avoir aujourd'hui à table. Et nous allons la déguster avec nos deux participantes aujourd'hui, nos deux invités, qui sont Anne Lovi et Laetitia Carlotti. Bonjour. Vous êtes prêtes, je le sais. Voilà, ça sera la première. La deuxième, une eau de l'Aveyron également, mais que l'on va filtrer. Puis la troisième, une eau, on va dire, vraiment sûre, qui est une eau de l'Aveyron qui a été bouillie, qui a reçu donc un traitement à la chaleur de 100 degrés. Voilà. Donc c'est une manière aujourd'hui de parler de ces trois eaux et de parler donc du sauvage, du domestique et peut-être, j'ai envie de dire, peut-être de l'eau industrielle.
Enfin, c'est pas vraiment de l'eau industrielle, mais en tout cas une eau contrôlée entièrement. Je vous propose de goûter cette première eau. Alors on va réaliser une dégustation un peu particulière. C'est une eau pleine de bactéries, donc quand même, il faut bien le dire, de nombreuses bactéries dans l'eau sont excellentes pour la santé, la plupart d'entre elles. Il reste que certaines sont quand même déconseillées. Laetitia, peut-être ?
Je reste assez circonspecte.
Alors, il y a une possibilité de la déguster différemment. C'est-à-dire, si tu n'as pas envie de t'humecter les lèvres ou même de la boire, enfin, et toi également, Anne, tu peux peut-être te rafraîchir simplement le front avec, parce que je vais d'abord, c'est relativement sans...
Non, mais avec le sauvage, il y a... J'aurais envie de chercher une forme de relation, mais en gardant la bonne distance. Donc, je vais le mettre là plutôt.
Non, je vais faire un peu comme Anne.
Donc voilà, nous.
C'est un peu comme les gouttes de la peur qui perlent sur le front. Bon, on a commencé quand même avec une introduction sur le risque qui était indiqué. Je n'ai pas très envie de faire...
De prendre trop de risques.
Ça, voilà.
Bon, c'est vrai qu'il y a, par exemple, je sais qu'il y a le protozoaire. Le protozoaire, j'ai découvert que le protozoaire, c'est le premier animal. Donc c'est une bactérie, mais assez grosse finalement. Elle peut faire 1 millimètre d'épaisseur. Enfin, on pourrait presque la voir, un protozoaire. Et c'est assez dangereux pour la santé. C'est ce qui donne le paludisme notamment. Alors bon, dans des eaux quand même plus chaudes que celles de l'Aveyron. Où ça peut donner la dysenterie. Voilà. Donc, bon, il faut quand même y faire attention. On passe à la suite ?
Ou,
parce que ma question, quand même, moi j'ai une question pour toi, Laetitia.
Oui.
Le sauvage en Corse, ces vaches qui se promènent dans la Corse, qu'on rencontre pour beaucoup d'entre nous en se promenant, en randonnant dans les montagnes corses, est-ce que ce sont des vaches sauvages ?
La vache, c'est issu d'une longue, longue histoire de domestication. Je ne pense pas qu'on puisse d'emblée les caractériser comme sauvages. Après, qu'il y ait un mouvement d'ensauvagement, une exploration du milieu qui se passe de l'intervention humaine, ça, c'est catégorique pour certaines d'entre elles. Donc, ça repose la question d'une certaine individuation parmi les vaches, quoi. Enfin, et là,
tu veux dire en termes d'identité, quoi. Il y a certaines vaches, ou certains groupes de vaches
qui prennent des décisions, qui s'autonomisent dans leur fonctionnement. Mais de là à les appeler sauvages, je veux dire, comment on revient sur des millénaires de travail avec l'homme ou... Je ne sais pas comment ça se produit, en fait. C'est au-delà de mes compétences, ces choses-là. Mais c'est des questions qui me turlupinent. J'aime bien ce mot.
Peut-être, Anne, tu pourrais nous dire si, effectivement, dans l'histoire de notre relation à l'animal, finalement, à un moment donné, il y a bien eu des animaux sauvages.
Oui, les animaux domestiques ont des ascendants sauvages. Mais comme disait Laetitia, les bovins, par exemple, c'est environ 10 000 ans d'histoire depuis les débuts de la domestication. Donc, même ces vaches qui se séparent de l'humain et qui mènent une vie plus autonome par rapport aux interventions humaines, elles viennent aussi de toute cette trajectoire-là depuis 10 000 ans. Voilà.
Très bien. Bon, alors passons à la deuxième qui va peut-être vous inspirer un peu différemment. Bon, la deuxième, ça nous demande un petit peu de travail. On va assurer une filtration. Alors donc là, je procède à un premier filtre dans un simple cône en porcelaine pour le café normalement et un filtre à café. Et ensuite, nous procéderons à partir de cette eau avec ce premier niveau de filtre qui nous assure qu'il n'y a plus de protozoaires. Complètement. Nous assurons un deuxième filtre avec ce filtre de 0,1 micron qui lui va permettre de retirer quasiment la totalité du monde animal présent dans l'eau et qui rendra donc cette eau peut-être à défaut d'être potable, puisqu'elle ne sera pas potable, mais elle sera buvable.
Je vais pas jeter le mien et je t'expliquerai pourquoi après, mais je vais te laisser mélanger les deux eaux.
Donc j'ajoute l'eau filtrée à l'eau sauvage de l'Aveyron.
Le fait que ce verre contienne de l'eau sauvage et une eau, on va dire, domestiquée, je me suis dit qu'en les mélangeant, il se passerait peut-être quelque chose qui ressemble à ce qui peut se passer dans les systèmes d'élevage, puisque les animaux qu'on domestique, ils sont en permanence en relation avec du sauvage, parce qu'ils peuvent se nourrir de végétation qui va pousser spontanément, donc qui est une forme de vie sauvage, parce qu'ils sont aussi en relation, ils sont exposés à des pathogènes, donc c'est une forme de vie sauvage auquel ils sont exposés. Voilà, il y a tout un tas de relations entre le domestique et le sauvage dans l'élevage. Et du coup, ben, c'est un peu ce qui se passe dans ce ver-là.
Je suis toujours sur l'emprise d'une certaine peur. Et je veux dire, même si en enlevant les bactéries, je ne sais pas quoi, à travers ce filtre, tu les as en même temps évoquées, donc fait rejaillir dans le discours, voilà, ils sont encore bien vivantes pour moi. Bon, par contre, au niveau du goût, ça va, quoi. Elle paraît un peu savonneuse, quand même. Enfin, je ne sais pas. Hein.
Alors, je vous propose de passer à la troisième. Donc, la troisième, elle est... Comme on l'a fait bouillir et que ça a été fait il y a relativement peu de temps, elle est encore chaude. Mais alors, le fait de faire bouillir l'eau, là, nous permet d'enlever tous les germes pathogènes et tous les bons germes également. Hein, pour ce qui est de notre microbiote, de nos intestins et de leurs bactéries, on ne leur apporte plus rien. Ça ne suffira pas. Donc, il y a trois méthodes, en fait, pour vraiment contrôler complètement une eau. C'est de la faire bouillir, la faire passer dans un filtre UV ultraviolet. Et la troisième méthode qui m'échappe là juste précisément maintenant, c'est de la chlorer, bien sûr. Alors, en sachant que lorsque l'on chlore l'eau, on se retrouve à tuer nos propres bactéries dans nos intestins. Alors, est-ce qu'on peut raisonnablement manger des produits, des bêtes qui ont été élevées dans des usines? On va dire des usines, pas des usines à viande, mais des usines d'élevage, où on contrôle absolument la totalité de l'environnement, de l'atmosphère et de l'alimentation des bêtes, justement, en évitant tous les pathogènes. On a vu, et même personnellement, pour avoir visité un élevage de porcs noirs dans le Gers, j'ai compris que maintenant, ils devaient doubler les clôtures dans ces bois, là où sont ces porcs noirs, et qu'il allait probablement aussi devoir avoir un sas pour rentrer dans le parc, dans le parcours, avec une charlotte, une combinaison, des surchaussures, exactement comme dans un élevage industriel, dans des bâtiments d'élevage industriel. Anne, peut-être ?
Alors, du coup, ça pose la question de la diversité des façons de faire de l'élevage. Et effectivement, dans certaines façons de faire, un des objectifs, c'est de contrôler. Alors, non pas, je ne sais pas si on peut dire qu'on contrôle les pathogènes, parce que ça, on voit bien qu'on ne peut pas vraiment... mais en tout cas, de contrôler, de minimiser, disons, les aléas de l'environnement. Donc, on a des bâtiments qui pourraient être... moins exposés aux aléas météorologiques, on contrôle très précisément l'alimentation qui est apportée, etc. Et on a des systèmes dans lesquels les animaux sont beaucoup plus directement en interaction avec un milieu de vie et avec du coup aussi ces aléas. Et un exemple un peu qu'on peut donner de ça, c'est les systèmes pastoraux, dans lesquels les troupeaux vont aller, par exemple, pâturer de la végétation spontanée et vont être soumis aux aléas météo, vont devoir supporter les changements de température, etc. Et vont aussi devoir faire avec la variabilité dans la pousse de l'herbe en fonction du climat, etc. Et donc, on est soumis à beaucoup plus d'aléas dans ces systèmes-là. Et le rapport de ces animaux domestiques à la diversité sauvage, on va dire, est très différent dans ces deux types de systèmes. Il y en a un où, du coup, la relation est très directe, alors que l'autre, les élevages sont abstraits d'un milieu. Et par contre, par rapport à la question des pathogènes, du coup, là aussi, ça se pose différemment dans ces deux types de systèmes. Et effectivement, dans les systèmes plus extensifs et plus pastoraux, les animaux sont potentiellement en contact avec des animaux sauvages qui peuvent être porteurs de certaines maladies. Enfin, il peut y avoir des transmissions entre animaux sauvages et animaux domestiques, donc ça peut poser des questions en termes de pathologies spécifiques liées à ces systèmes-là. Mais après, il y a d'autres questions qui se posent dans les systèmes industriels du fait qu'il y a on peut pas en fait contrôler le fait d'isoler ne permet pas de s'assurer de ne pas être touché par des problèmes pathologiques pour autant et peut enfin créer d'autres, il y a d'autres, par exemple sur les systèmes plus pastoraux et plus ou avec des animaux plus rustiques, ces animaux plus rustiques sont réputés plus résistants et plus adaptés à certains types de maladies. Donc le rapport aux problèmes sanitaires est différent dans les deux systèmes, mais effectivement c'est une question qui se pose dans les relations entre domestiques et sauvages, dont on parle de plus en plus.
Anne, tu veux ajouter quelque chose ? Laetitia ?
Je vais reprendre un petit peu ce que disait Anne, justement, sur les troupeaux sur parcours, et repartir du sujet qui m'avait préoccupé, qui était la vache corse, en fait, en moyenne et haute montagne. Parce que ça évoque un peu le travail qu'on avait fait avec Mathieu sur le coworking avec un W, qui était un travail où chacun, avec son animal sur un même terrain, pouvait recouper des informations et apprendre un petit peu mieux, ou en tout cas faire une entrée en matière pour apprendre à percevoir le milieu. Et Mathieu, qui travaillait un peu sur les zoonoses par l'intermédiaire du sanglier. Et la vache et le sanglier ayant les mêmes parcours, au moins pas mal de stations de croisement. Donc voilà, ils partagent le... Enfin, ils urinent et défèquent à peu près aux mêmes endroits. Ça, on a pu le constater directement sur place. Pour ce qui est du prélèvement de nourriture, ça se fait aussi aux mêmes endroits. Et donc, c'est des hauts lieux du partage, ces paysages de montagne. Et encore, on en est qu'au début d'une enquête qui a été un peu interrompue par le Covid. Du coup, il y a plein d'autres animaux qui restent à interroger sur ces passages-là. Et après, peut-être pour un petit jeu de mots, parce que moi, je fonctionne beaucoup par association spontanée, on va dire. Travailler sur les os animaux, moi, j'entends aussi os. Et dans les prélèvements que j'avais fait dans la zone d'études, on va appeler ça un peu crûment comme ça, j'avais trouvé au même endroit des os et des pierres qui se ressemblent de façon confondante, on va dire. Il faut presque les toucher pour les différencier. Et ce rapport de forme n'était pas sans évoquer un rapport de matière, de minéraux présent à la fois dans les os et dans les pierres. Et du coup, ça reste à être vraiment analysé par des gens dont c'est le travail, mais j'en ai parlé à un géologue qui m'a rapidement dit des lettres qui voulaient représenter un minéral, je ne me rappelle plus très bien lequel, malheureusement. Mais c'était une roche sédimentaire... Et du coup, il me disait, oui, il y a une analogie, mais réelle sur ces deux objets que tu me présentes là. Donc, je lui ai demandé, OK, ça passe comment de l'un à l'autre, en fait, ce lien avec la Terre qui me paraissait très puissant, là, au niveau local, vraiment géologique, enfin, pour parler des milieux. Et là, ça passait par la plante, en fait. C'était les lieux aussi où ils se nourrissaient. Ça passe par la plante, quoi. Ça transite par le végétal. Et bon, il m'a répondu l'eau, mais oui, bien sûr. Mais dans ces zones de haute, moyenne montagne, on va dire, les sources sont plutôt rares. Et la façon des vaches de prélever leur eau, c'est de se nourrir avec les végétaux aussi.
Merci, je pense que tu feras la transition vers une prochaine dégustation qui sera consacrée aux eaux végétales. Merci Anne-Lovie, merci Laetitia Carlotti.
Merci
à tous d'avoir assisté à cette dégustation. Bonne soirée à tous.
Merci.
Le dialogue des eaux que vous venez d'écouter a été conçu et animé par Ludovic Roif. L'enregistrement a eu lieu pendant le festival Le cours de l'eau, la cour et l'eau à la cuisine, centre d'art et de design à Nègrepelisse, en partenariat avec Les Nouveaux Terriens, l'observatoire des imaginaires ruraux. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur www.lesnouveauxterriens.fr.